dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier. Aujourd'hui, Dissonance vous invite à un entretien avec Christiane Passevant, réalisatrice et animatrice de l'émission Chronique Rebelle, qu'elle anime depuis 33 ans sur Radio Libertaire.
Moi, ce que je voulais, c'est faire une émission à réflexion, à débat, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ce qui m'intéressait de traiter, c'était bien sûr le syndicalisme, si c'était nécessaire, bien sûr l'activisme, ça me passionne, mais il y avait surtout une chose, disons, de manière globale et générale, c'était tout ce qui est à contre-courant. Toutes les personnes qui viennent, même des gens qui sont entre guillemets connus, si tu veux, ils viennent parce qu'ils disent « Ah ben non, mais au moins chez toi, d'abord tu as lu le bouquin, si c'est un bouquin, ou tu as vu le film, et puis ensuite on peut faire des digressions, on a le temps, on s'installe. » La Méditerranée étant, c'est la lumière, c'est les odeurs, c'est la couleur, c'est tout ça. C'était, pour moi, j'étais complètement formée par ça.
Bonjour Radio Libertaire, les Chroniques Rebelles et à présent, les films au cinéma.
Une question sur le lien entre la situation intime des personnages et la situation politique.
It's a good question.
On a beaucoup de chance de rencontrer autant de gens fantastiques dans ce qu'on fait que du plaisir.
On s'écoute un peu de musique. Bonjour les Chroniques Rebelles, aujourd'hui avec Un Peuple, film d'Emmanuel Gras.
La semaine prochaine, nous parlerons évidemment de quelques films, mais nous parlerons également de textes.
Une vérité crue et sans concession, un très grand film. On est né là-dedans.
En fait, c'est la deuxième génération, là, non ?
Eigentlich schon die dritte.
Déjà la troisième.
La différence qu'il y a dans l'interprétation du Talak.
La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Enfin, une rétrospective du cinéaste mexicain Roberto Gabaldon.
Radio Libertaire, les Chroniques Rebelles.
Tu vas faire le même boulot que les pinsons Charlot.
Nous n'avons pas eu à les rejeter. Nous n'avons simplement pas suivi de pratiques religieuses. Bonjour, les Chroniques Rebelles, aujourd'hui avec du cinéma et de la musique.
La révolution, ce n'est pas ce en quoi vous croyez, l'organisation à laquelle vous appartenez ou pour laquelle vous votez. C'est ce que vous faites tout au long de la journée, votre mode de vie. Agir d'abord, analyser ensuite. C'est l'élan, et non la théorie, qui fait les grandes avancées.
Underground et contre-culture dans la Catalogne des années 70. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Francesc Boldú.
Les gens qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qui est subversif dans l'amour et ce qui est positif dans le refus des contraintes, ces gens ont un cadavre dans la bouche. Raoul Vanegay.
Eh bien écoutez, très très bonne semaine et surtout, évidemment, tenez bon.
Christiane Passevant est la voix de l'émission hebdomadaire Chronique Rebelle.
Une voix mettant en valeur ses invités, des moutons noirs qui, avec leurs plumes, leurs mots, leurs caméras et leurs actions, avancent comme elle à contre-temps.
Aujourd'hui, il ne sera pas question de l'écrivaine, la journaliste, la critique de cinéma qu'est Christiane.
Ce que nous avons tenté de mettre en avant, c'est la femme anarchiste qui va nous donner à découvrir la genèse de sa révolte et les coulisses de son émission, où, depuis 1989, elle donne la parole à des hommes et des femmes rebelles, ses frères et sœurs en humanité.
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est Christiane Passevant que l'on questionne et que l'on va entendre. Une voix dissidente, une pensée libre, ouverte, généreuse, affranchie de tous les dogmes et lucide.
Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question d'engagement, de films d'auteurs, d'écrivains à vélo,
mais aussi de vilains petits canards et même de David Copperfield.
Radio Libertaire, les chroniques rebelles.
Avec Christiane Passevant.
Sur Dissonance. Christiane, ça fait 30 ans que tu animes, produis, réalises l'émission Chroniques rebelles sur Radio Libertaire.
Bien, en fait, j'ai commencé en, non pas il y a 30 ans, mais en 89. J'ai fait partie de l'équipe des chroniques syndicales. Et donc les animateurs et producteurs de cette émission, à savoir Hugues Lenoir, Serge Aumonier, également Alain Dervin et bien sûr Lucien Chalk, m'ont fait confiance absolue. Il y avait 3 heures des chroniques syndicales et ils m'ont dit « Écoute, est-ce que tu peux t'occuper de la 3e heure et de faire une sorte de chronique syndicale un peu internationale ?» Et la première émission que j'ai faite, c'était une émission sur le mouvement ouvrier états-unien. La seconde, le mouvement ouvrier britannique. Et ensuite, donc divers, c'est beaucoup, pas mal de choses sur l'histoire, etc. Et en fait, étant donné que, disons, historiquement, le mouvement syndical n'avait pas exactement la même manière de fonctionner, très vite, les copains m'ont dit, bah, écoute, pourquoi finalement tu prendrais pas cette heure et tu fais ce que tu veux ? Ça c'était en 91 quand on en a parlé et c'est au moment où moi je suis allée en Israël-Palestine. Ils m'ont dit écoute, tu fais des reportages, on y va. Parce que j'ai fait des reportages par exemple avec Hugues Lenoir sur les immigrés polonais dans le nord de la France, etc. Donc on rencontrait des gens, donc je prenais un agra et puis j'allais faire les trucs avec lui, etc. Et le nom de l'émission Chronique Rebelle, c'est venu de Lucien Chal, qui est toujours mon technicien, qui m'a dit, parce que je dis, mais qu'est-ce que je vais donner comme nom ? Je ne veux pas m'enfermer dans un thème ou dans un sujet, je veux que ça soit garder chronique, mais autre chose. Et Lucien m'a dit, bah, pourquoi pas Chronique Rebelle ? Comme ça, ça ne te coince pas, tu fais ce que tu veux. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait, et c'est un petit peu, en fait, ce qui m'intéressait de traiter, c'était bien sûr le syndicalisme si c'était nécessaire, bien sûr l'activisme, ça me passionne, mais il y avait surtout une chose, disons, de manière globale et générale, c'était tout ce qui est à contre-courant. Peu importe, tout ce qui va créer le débat, peut-être des dissensions, peut-être, j'ai horreur du consensus, ça m'a frappé en 1980, j'ai détesté le consensus. Moi, j'aime bien le dissensus. J'aime bien qu'on discute, j'aime bien qu'on ne soit pas d'accord. Et pas d'accord avec moi, je trouve ça super bien. Après, il faut argumenter, bien sûr. Et donc, ça a commencé comme ça. Les premières émissions, la toute première émission que j'ai faite des chroniques rebelles, c'était l'histoire du pétrole. Et l'histoire du pétrole, on peut s'imaginer pourquoi, mais parce que tout ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs, toutes les volontés de s'accaparer des différents terrains, ben ça touche toutes les matières premières, mais le pétrole en premier lieu. Et en fait, ça a démarré au début du XXe siècle avec le moteur à explosion. Et donc la première émission, c'est sur cassette, le son n'est pas très bon, mais c'est l'histoire du pétrole. Et ça donne énormément de points intéressants parce qu'en fait, tu comprends pourquoi. Parce que s'il n'y a pas le pétrole lui-même, ben, il y a le passage des pipelines avec le pétrole, comme en Afghanistan par exemple. Donc tu te dis, je comprends pourquoi il y a tous ces enjeux. Et ça veut dire aussi, comme j'étais très intéressée par Israël-Palestine, ça voulait dire que tout ce Moyen-Orient ou ce Proche-Orient, comme on dit, ces quatre qui étaient devenus des quatre pays après la Seconde Guerre mondiale, en 1921, mais en fait, il y avait déjà eu des deals entre les Britanniques et les Français, Monsieur Six et Monsieur Picot, en 1917, ça a commencé fin 1917, où ils se sont partagés en fait ce Proche-Orient. C'est-à-dire la France, c'est la Syrie et le Liban, et les Britanniques, c'est la Palestine et l'Irak. Et le pétrole, eh ben, il est dedans aussi. Le pétrole et l'accès à la mer. Donc tout ça. Et donc automatiquement, cette émission, c'est un petit peu, si tu veux, comme une sorte de fil d'Ariane que tu déroules, que tu vas parler de ça, bah automatiquement, tu vois, je te parle du pétrole, on parle de la Palestine, on parle de l'Afghanistan, on parle de ça. Et c'est quelque chose qui se renouvelle. Donc, moi, ce que je voulais, c'est faire une émission à débat, à réflexion, à débat, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et j'ai la chance, si tu veux, d'avoir eu un réseau d'intellectuels, on va dire, des universitaires et des autres, des activistes, des militants, des militantes, etc. Et ça a vraiment été quelque chose de, disons, assez facile pour moi, sauf qu'il fallait d'abord que je me fallait vaincre, si tu veux, mon manque d'amour de cette voix qui m'énervait, ma confusion. Et quelquefois, je vais très vite, je finis pas mes phrases. Et je me rappelle que mon compagnon, la reportiste, me disait toujours « ça serait super si tu pouvais terminer tes phrases ». Et donc, je me disais « oui, c'est vrai, il a raison ». Et après, quand j'ai remonté les émissions, bien plus tard, je suis monteuse à l'origine, hein. Bon, évidemment, ça t'apprend. Et puis, je ne peux pas, si tu veux, étant donné, comme je suis technicienne, quand j'enregistre, j'entends même les défauts. Et ça bloque quelquefois. Parce que chacun a des espèces de petits mots qui reviennent. Moi, c'est effectivement, et c'est très intéressant. Parce que j'avais des amis, j'avais donc Nelly Trumel qui faisait Femmes Libres et qui me disait, dis donc, intéressant, ça commence à bien faire. Tu ne veux pas trouver un autre mot parce que vraiment... Et il y a eu, si tu veux, au sein de la radio était... On se connaissait beaucoup plus à cette époque-là. Donc,
la radio, c'est Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Donc Radio Libertaire, évidemment là c'est un peu spécial parce qu'il y a eu le confinement, mais disons qu'il y avait beaucoup plus d'assemblées générales, beaucoup plus de discussions, d'accord, pas d'accord, etc. Mais je dois dire que l'équipe qui m'a accueillie dans les chroniques syndicales, c'est des personnes qui m'ont toujours fait confiance absolue. Et ça... Pour moi, c'est vraiment, notamment évidemment un soutien, mais en plus de ça, c'est pour moi, j'ai vraiment besoin d'être loyale vis-à-vis de ces gens. Et je connais l'outil radio, puisque je travaillais à Radio France. Je fais beaucoup d'émissions sur l'Algérie.
Oui, c'est une de tes passions, les pays du Maghreb, les femmes.
Voilà, les femmes, les pays des Maghrebs, puisque j'y ai vécu, donc ça m'intéresse. Mais surtout aussi, l'Algérie, c'était dans les années 90. Or, c'était la décennie noire, et j'ai connu beaucoup d'Algériennes en France et d'Algériennes en Algérie. Et surtout, en 95, oui, on m'a invitée à aller en Algérie parce que pour le 1er mai, parce que les filles avaient décidé de manifester dans Alger. On nous a finalement pas permis de le faire parce qu'ils avaient peur que les autres nous vitriolent ou je ne sais quoi. Mais quand même, j'avais besoin d'y aller. Et donc, si tu veux, à ce niveau-là, effectivement, mon compagnon, lui, il était toujours partant et d'accord pour tout. Quand on est parti en Israël-Palestine, j'ai dit, bon, il faut que on parte. Il m'a dit, bon, OK, on y va. C'était une relation extrêmement fusionnelle, d'entente et de confiance.
Donc ton compagnon Larry avait aussi un droit de regard sur les émissions que tu construisais.
Quelquefois.
Et tu les construis toujours de la même façon, avec un invité ou une invitée, puis après des petites chroniques de critiques de livres et de cinéma?
Non, ça a été ça a évolué. En général, si tu veux, c'est vraiment, ça dépend des sujets. Parfois, c'est un sujet qui va prendre les 2 heures. Au début, j'avais qu'une heure.
Oui, parce que ton format, maintenant, c'est 2 heures.
Hein. Voilà. Et au début, j'avais qu'une heure. Et puis à la fin, comme je dépassais tout le temps derrière pour le copain qui faisait dessous de scène,
ils ont dit, je ne sais plus qui était, je crois qu'il y avait Nelly Trumel qui m'a dit, bon, écoute, ça suffit maintenant, tu prends une heure et demie, mais tu ne dépasses pas, s'il te plaît, quoi. Bon, donc j'ai pris une heure et demie. Et puis après, c'était Nicole qui faisait ras les murs, qui m'a dit, bon, écoute, on a compris, tu prends deux heures, mais tu essayes. J'essaye d'être stricte, parce qu'en plus de ça, j'ai Lucien qui me dit, t'as encore dépassé, etc. Et là, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, hein, j'ai enregistré, je te montre, c'est que les autres avaient dépassé. Et là, j'essaye de respecter, parce que pour les gens qui écoutent la radio, si tu veux, c'est un peu embêtant, s'ils ont le truc 5 ou 10 minutes après, ils ne comprennent pas, quoi, tu vois. Et la construction, en général, donc je fais toujours un conducteur, je suis incapable de travailler sans conducteur. Et donc, ça peut être un sujet qui va prendre tout, comme par exemple Tamara Erdeux. Bon, ben, c'était les deux heures. Mais autrement, ça peut être, par exemple, deux sujets différents. Ça peut être un sujet, puis ça peut être des lectures par des comédiens. Ça peut être une manifestation. Ça peut être un reportage. Je ne veux pas me coincer dans un format. Je suis toujours en train de critiquer les émissions, par exemple, sur France Culture, mais surtout sur France Inter, qui, à mon avis, est devenue un peu insipide. Ils sont dans des formats, donc ça te coince. Donc ça devient presque comme à la télé, c'est-à-dire tu peux... t'as le droit de dire trois phrases et puis il faut que tu t'arrêtes. Toutes les personnes qui viennent, même des gens qui sont, entre guillemets, connus, si tu veux, ils viennent parce qu'ils disent « Ah ben non, mais au moins chez toi, d'abord t'as lu le bouquin, si c'est un bouquin, ou t'as vu le film, et puis ensuite on peut faire des digressions, on a le temps, on s'installe. » Tandis que sinon, tu dis trois phrases et puis il faut s'arrêter, quoi.
Le vieil homme réfléchit, assis face à la mer. Il voit son Algérie, cœur sanglant sur la terre. Il a les larmes aux yeux, Marseille s'est endormie. Il vague comme il peut, son bateau c'est l'esprit. Sa vieille djellaba, il l'a toujours portée. Comme ton costume de soie, ton jean se délarvé. Et quand il a souffert au rire des imbéciles, son visage berbère parlait toujours kabyle. Surtout ne l'oublie pas, car tu es né de lui. Dans ta banlieue, petit gars, si un jour tu l'oublies, tu auras tout perdu. Ton père, ta mère, ta terre, et si tu n'en peux plus, repense à ton grand-père. Il est venu ici travailler pour le pain. Ses nuits, ses insomnies, ses soucis quotidiens. Sa vieille chez la barre, elle les connaît par cœur. Il venait de là-bas, il pleurait comme tu pleures. Quand je dis il pleurait comme la pluie. Je veux dire, il disait tout ce qu'on n'a pas dit. Travailler pour le pain, s'éteindre de fatigue. Ton grand-père comme le mien reste le meilleur guide. La vieille chez là-bas, toujours contre sa peau. Tu n'es pas de là-bas, mais tu es de sa peau. Et les yeux du vieil homme tendus vers l'horizon ont le regard du gonne qui écrit cette chanson. Je veux dire en cela, ouvrez tout grand vos yeux. La vieille chez là-bas, écorce du bon Dieu. C'est l'amour d'un soldat qui déteste la guerre. C'est ton cœur quand il bat, c'est l'âme de ton grand-père. s'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de mentir. Mourir n'est pas un drame, s'exiler, c'est mourir. Le mot intégration est un mot de raciste. Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice. Et ne l'oublie jamais, ce vieux ange là-bas. Il est porte-secret, il est ton vrai combat. Moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte son Algérie comme on offre une fleur. Dans ta banlieue, n'oublie pas ton histoire. Un jour on devient vieux, un jour il se fait tard. La vieille djellaba, c'est tes yeux merveilleux. N'oublie pas, petit gars, tu es l'eau et le feu. Vieil homme soleil tourne le dos à la mer. Marseille se réveille, il commence à se taire. La vieille chez là-bas, portée par le soleil, le ciel de haut en bas s'éclaire d'un arc-en-ciel. Surtout ne l'oublie pas. Surtout, ne l'oublie pas.
Radio Libertaire, les chroniques rebelles.
Avec Christiane Passevent.
Sur Dissonance.
En général, j'institue le tutoiement. Et je dis, on se tutoie, ça ne vous dérange pas, ce serait bien. Deuxièmement, j'aime bien les gens et je suis très curieuse. J'adore poser des questions depuis l'enfance. Et donc, ça m'intéresse d'avoir une personne qui, en plus de ça, me fait confiance et va me dire des choses, comme tu dis, quelquefois même de son intimité. C'est quelque chose... Bon, alors, en général, ça marche. Ça peut ne pas marcher. Donc, je suis obligée à ce moment-là de tirer, comme on dit, un peu tirer les vers du nez, tu vois. Mais en général, quelquefois, au début, j'étais peut-être moins habile. Alors... La première demi-heure était un petit peu...
Oui, prise de contact, on sait.
Voilà, quoi. Puis si tu veux... Puis je m'arrange pour les voir, par exemple, 10 minutes avant, ou je parle avec eux au téléphone, etc. Je rencontre pas vraiment les gens avant. Parce que j'ai dit, on va dire, ça m'est arrivé au début, et puis après les gens... Ah oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est pas possible. Donc je dis non, je préfère que ça soit frais, et je veux une certaine spontanéité. Je fais en général toujours une introduction, c'est-à-dire ce qu'on appelle un chapeau en jargon. Et après le chapeau, si tu veux,
l'introduction que tu travailles, que tu écris au préalable.
Ah oui, là j'écris.
C'est
je...
toujours très construit, voilà, tes introductions.
Voilà, oui. Là je la construis, je la lis. Enfin, voilà, je peux faire des petits changements, mais elle est là. Grosso modo, c'est une introduction. Ben, ça dépend des émissions, mais ça peut aller de 2 à 5 minutes. Ensuite, là-dessus, je mets une pause musicale. Évidemment, je parlerai après du jingle. J'ai une pause musicale qui, en général... Bon, ben, ça a quand même été mon métier pendant très longtemps, qui colle avec le sujet, bon, ou en tout cas à mes yeux. Et puis à ce moment-là, ce que je fais, je demande, je redis, parce qu'on m'a dit, tu dis pas assez le titre, on dit à chaque fois le titre. Donc je fais, j'aime beaucoup les critiques. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'apprend des choses. Et donc, je redis le titre et après, je dis, mais dans la pause musicale, je leur dis, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou... S'il y a un truc qui vous a un peu chiffonné, ou si je me suis trompée, ou je ne sais pas, surtout, et en général, c'est ce qu'ils font. Ou ils disent non, ben, écoute, non, il n'y a rien, ou alors non, c'est un bon résumé, etc. c'est mieux que la quatrième. Il y en a qui me disent, bon, donc, très bien, on fait comme... Mais je veux que les gens se sentent à l'aise et n'essayent pas de dire, bah, franchement, ce que tu as dit, tu vois, c'est pas bon, quoi. Ou c'est faux, ou je sais pas quoi. Au contraire, c'est ça qui est intéressant, parce que ça fait rebondir. Et automatiquement, quand les gens sont... Puis c'est un petit studio, c'est pas un gros machin, il n'y a pas de caméra. Enfin, il y a quand même... Déjà, il y a quelque chose qui s'établit entre les personnes. Qui parfois, bon, si tu les connais, évidemment, c'est facile, mais si tu les connais pas du tout, en général, ça marche bien.
Et pourquoi le choix toujours du direct ? Enfin, souvent, en tout cas, du direct, parce que tu pourrais avoir les invités que tu reçois chez eux, et puis après, tu fais tout un travail de montage et tu as une émission.
C'est ce que je fais plus maintenant. Parce que, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui sont pas libres. Et quand j'ai commencé à faire, à travailler dans la critique de cinéma, ça avait commencé déjà, je travaillais encore à Radio France, mais après, disons qu'en 2015, là, c'est vraiment, j'avais tout mon temps. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma d'auteur. Et le cinéma d'auteur n'ont pas beaucoup de moyens, les distributeurs. Donc, tu as, par exemple, un réalisateur ou une réalisatrice qui vient et qui va rester pendant 2 jours, 3 jours maxi. Et donc, ils enquillent les interviews sur les interviews. Et donc là, tu ne vas pas faire venir... Si, il y en a quelques-uns. Il y en a un, Pablo Agüero, qui est un réalisateur argentin qui est absolument phénoménal, parce qu'il se passe quelque chose en Amérique du Sud au niveau cinéma. Bah, lui, il est venu, parce qu'il était là, de passage, et il parle français. Mais autrement, si tu veux, parce qu'il y en a aussi qui parlent anglais, ouais, donc il faut que j'ai quelqu'un qui traduise et tout, que je fasse après une sorte de fausse traduction, tu vois, je triche, etc. Donc il y a tout ça, bah, ça, je ne peux pas le faire en direct. Je suis obligée de le faire... Mais il faut que je garde quand même l'impression, un peu l'impression du direct. Ou quand puisque je vais beaucoup, je suis, depuis 98, je suis le Festival International du Cinéma Méditerranéen, parce que je suis passionnée par le cinéma méditerranéen, qui est à Montpellier, donc en général c'est fin octobre. Et là, je l'ai fait, et c'est même, il y a des interviews qui sont c'est un interview choral, je peux pas dire aux gens, non, tu peux faire un one-to-one, mais en général, c'est plutôt des interviews chorales. Donc là, il faut que je me débrouille. En général, je laisse les gens parler parce qu'ils disent des choses qui, en général, m'intéressent pas, puis après, je coupe. Puis après, je pose mon mode d'emploi. Je sais toutes les questions qui vont être posées. Je connais ce que les critiques vont poser comme questions. Donc moi, je pars ailleurs. Ouais. Et en plus de ça, quelquefois, tu es avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui se sont enquillés, je sais pas, 10, 20 interviews avec toujours les mêmes questions, qui en ont ras-le-bol. Je vais pas leur dire, alors ça a commencé Non. Je leur pose complètement des questions par rapport à leur travail ou par rapport à, comme je connais la technique cinématographique, l'étalonnage, le montage, la prise de vue, le machin, combien de temps, etc. Et puis j'essaye de le raccrocher toujours à l'intention qu'il y a eu au départ. Mais l'intention même inconsciente. Parce qu'en fait, ce qui me passionne, à part le fait que ça soit contre-courant, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui me passionne, c'est, et qui je pense me passionnera jusqu'au bout, c'est comment se passe la prise de conscience. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, je me dis, mais pourquoi il ou elle s'est mis à réagir comme ça, à penser ça? Et chaque personne, chaque éveil de conscience, c'est une histoire différente. Ça peut être une rencontre avec des gens, ça peut être un choc, ça peut être un tas de choses. Et tu vois, dans une même famille, les enfants n'ont pas du tout les mêmes directions, ce qui est formidable. Donc, et pourtant, ils ont eu grosso modo la même éducation. Et ben là, et moi, l'éveil de conscience, je reviens toujours à ça. Même de manière détournée, si tu veux. Parce que je veux comprendre. Parce que je veux comprendre pourquoi, moi, j'ai aussi eu cet éveil de conscience.
Justement, je voulais te demander, quel est l'éveil de conscience pour Christiane ?
Ben écoute, je pense qu'évidemment, c'est beaucoup de choses. Mais premièrement, j'ai lu très très jeune. J'ai lu les deux premiers livres que j'ai lus. Le deuxième, c'est ma mère qui me le lisait parce que je devais avoir 4 ans, un truc comme ça. Le premier, c'est le vilain petit canard. Et je trouvais que c'était un livre formidable, parce que cette histoire de petit canard qui est un petit peu écarté, qui est pas du tout dans la norme et tout ça, mais finalement, bon, il devient un cygne noir, c'est plutôt pas mal, quoi, tu vois. Et moi, j'étais persuadée que je n'étais pas née de mes parents. Parce que ma mère me racontait de très belles histoires et elle me disait notamment... En fait, j'ai rencontré une petite fille, t'étais sympathique et comme ça, je t'ai adoptée. Et moi, je trouvais cette histoire absolument merveilleuse. Et j'ai dit, c'est le vilain petit canard. Et le deuxième livre qui, lui, a été vraiment, je pense, au niveau social très, très formateur, c'est David Copperfield. Parce que je voyais, là, tu es vraiment dans les bas-fonds, l'injustice, etc. Et puis, ce qui m'a aidée également, je pense que c'est mon grand-père, qui était certainement libertaire, un côté anarchiste, mais complètement inconscient, qui m'a toujours appris d'avoir absolument aucun respect de la hiérarchie. Il m'avait raconté une histoire quand j'étais petite. Il était à l'école et à cette époque-là, tu sais, on mettait les doigts comme ça et puis on donnait des coups de règle. Quand tu avais fait une mauvaise réponse ou tu avais bavardé et tout. Et lui, il y avait à l'époque des cendriers en plomb dans les bureaux des écoliers, et qui étaient avec des fois des petites vis, mais on s'amusait tous à les enlever. Et il a pris le truc et il l'a balancé à la gueule du prof. Et toute ma petite scolarité, j'ai rêvé qu'il allait, on allait me faire ça et que j'allais en balancer le truc à la gueule. Parce que mon grand-père était... il avait des trucs, si tu veux. Et moi, j'étais assez fascinée par ce type. Et puis ensuite, il faut dire, si tu veux, moi, j'ai connu... quand je suis rentrée en 6e, il y avait la guerre d'Algérie. Et déjà, au lycée, j'étais à Paris. Donc là, j'étais à Paris. Et j'étais dans un lycée qui était pas loin de la gare Saint-Lazare. Lycée Octave Réard. Et dans ce lycée, il y avait une partie des élèves du 16e arrondissement, 8e arrondissement, donc Chicos. Et de l'autre côté, il y avait toutes celles qui venaient des banlieues. Asnières, Gennevilliers, machin, etc. Il y avait ce mélange de classes qui était très fort. Et il y avait la guerre d'Algérie. Et dans la classe, des gosses, des gamines de 12 ans, 13 ans, il y avait les Algéries algériennes, les Algéries françaises. Et on se battait, physiquement parlant. Tu vois, moi, on m'a suspendu par ma natte. J'avais une grande natte dans le préau. J'ai cassé la gueule à la fille. C'était vraiment... Il y avait énormément de choses. Et il y a eu ça. Il y avait, si tu veux, les discussions politiques. J'avais un prof de français qui était... Madame Blumenkrantz, je me rappelle encore. Qui était... qui nous faisait lire, on avait 12 ans, 13 ans, Camus, Sartre, etc. On était 48 dans la salle. Dans la classe, tu peux t'imaginer, on était tellement excités qu'on montait sur les tables. Madame, je veux répondre, madame. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof d'histoire, qui était en fait une femme communiste. On faisait à ce moment-là l'histoire de l'Antiquité, et j'étais passionnée, je faisais que lire. Elle nous disait, mais arrêtez de roupiller sur vos tables, etc. Moi, je me disais, mais elle a raison. Et donc, elle me laissait faire tout ce que je voulais. Et comme c'était ma passion, j'avais lu l'Iliade, l'Odyssée, j'ai tout, j'avais avalé ça. Et donc, je connaissais tout, si tu veux. Et donc, une fois, je me rappelle, elle avait fait une interrogation et j'avais pas terminé. Évidemment, elle avait ça pas sur l'Odyssée, sur l'Iliade. Et donc, elle m'a trimballé toute la matinée dans toutes ses classes et j'étais sur le bureau, je terminais mon devoir. Et ça, c'est des trucs, si tu veux, qui te marquent parce que d'un seul coup, tu deviens non plus... objet, mais tu deviens sujet. Et si tu veux, comme Madame Blumenkrantz, elle nous parlait des choses, bon. Mais après, ça dépendait. Moi, j'étais vraiment basée sur l'affectif avec mes profs. Hein. Les profs qui me faisaient confiance, alors là, c'était pas de problème. Hein. Les autres, je prenais la tangente. Et puis, le problème, c'est que effectivement, j'avais des facilités, mais ça a été vraiment un très gros handicap parce que je travaillais pas. Parce que je pensais que ce qui est une erreur totale. Puis j'étais quand même fille unique pendant 13 ans, et donc, si tu veux, toute mon enfance, on m'a jamais dit tais-toi. Donc je posais des questions très gênantes, qui foutaient tout le monde mal à l'aise. Finalement, j'ai dit je veux plus aller dans des repas de famille, etc. Donc ça, c'était très bien. Donc en fait, j'ai été privilégiée à ce niveau-là. J'ai jamais été baptisée, mes parents m'ont laissée libre. Ils m'ont dit, tu décideras après. On m'a posé, est-ce que tu veux faire ta communion? Bah, j'ai dit non, je veux pas. Donc toutes ces choses-là, je pense que, tu vois, ce truc un peu, ce mélange, fait que j'avais une certaine liberté qui m'a aussi causé, bah, j'étais virée à la fin de la seconde, parce qu'ils ont dit que j'étais dangereuse pour mes camarades. Mais tout ça a fait que ça m'a donné une certaine... Et ma mère m'a toujours, toujours, toujours soutenue. Et ça, c'est une force. Et j'ai remarqué, toutes les femmes que j'ai interviewées, et des femmes, certaines costauds, je pense notamment à Léa Tsemel, qui est avocate des Palestiniens. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais attends Léa, ta mère, elle t'a soutenue. Elle me dit, écoute, mon père est mort quand j'avais 16 ans. Ils étaient au Parti travailliste, elle habitait à Haïfa. Et elle me dit, ma mère m'a toujours soutenue, et quand elle s'est vraiment impliquée à partir de l'université à 20 ans, un truc comme ça. Et là, quand ça, les voisins, la famille venaient dire à la mère, non mais attends Léa, c'est pas possible, mais tu te rends compte, elle se fait traiter de pute d'arabe, etc. Et elle a dit, écoutez, je suis pas d'accord avec ma fille, mais je la soutiens complètement. Vous êtes contre? Ben on se voit plus, c'est pas grave.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé, elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir, elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté, c'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforce de la terre pour trouver le droit chemin, une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main. Des mots dans la marche étroite, tout tremblant qui font des dessins, je me sens si maladroite et pourtant je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu l'adresse, rien qu'une fausse identité. Pour le pouvoir n'est pas doué. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié, une vue que je retrouve pour les sentiers égarés. On prend tous la ligne droite, c'est plus court, oh oui, c'est plus court. On voit pas qu'elle est étroite, il n'y a plus de place pour l'amour. Je voulais dire que je t'aime sans espoir et sans regret. Je voulais dire que je t'aime, t'aime, parce que ça sent.
Radio Libertaire, les chroniques rebelles.
Avec Christiane Passevent.
Sur Dissonance. Et ta passion pour les peuples méditerranéens, elle vient d'où?
Euh, la Méditerranée étant, c'est la lumière, c'est les odeurs, c'est la couleur, c'est tout ça. C'était, pour moi, j'étais complètement formée par ça. Et en plus de ça, tu vois, je fais des gestes, je parle, je bouge, je parle aux gens, etc. Tu arrives à Paris. C'était le Paris des années 50, c'était horrible, c'était, tout était gris, les gens avaient été mauvaise mine, etc. Ça m'a frappée, c'était sale, c'était dégueulasse, etc. J'ai détesté Paris, et quand je remontais, quand j'allais en vacances chez ma grand-mère à Nice, je remontais, et puis après je suis repartie à Nice aussi pendant une année parce que j'étais tombée malade. Je suis repartie, quand je remontais à Paris, de Nice, quand on avait une voiture, j'arrivais à Valence, et je pleurais, je commençais à pleurer. Je déteste Lyon, pourtant c'est une belle ville. Parce que pour moi, c'était, ça y est, c'était la limite, j'avais passé la frontière. Et je pense que c'est ça. Et puis bon, je trouve que les langues autour de la Méditerranée sont très belles, les coutumes, les histoires, enfin bon, je me sens très très à l'aise en Méditerranée. C'est-à-dire, quand je vais par exemple au Maroc, c'est Larry qui m'avait fait remarquer, à Tanger, j'arrive, je vais tout de suite en face du port, dans le petit café qui est en bas, je prends un thé à la menthe parce que c'est bourré de menthe, et puis je commence à discuter avec tout le monde. Parce que c'est un truc, il me dit, mais attends, mais tu les connais pas. J'interviens, tu sais, on intervient dans la rue quand il y a un truc, mais ça va pas te faire ça. Il arrive, il me dit, mais comment c'est quoi, tu les connais pas. Mais je m'en fous, je les connais pas, mais j'interviens. Et les gens, c'est pour ça, en plus de ça, j'ai vécu beaucoup en Médina et dans la Casbah. Donc c'était, pour moi, c'était tout à fait, les gens trouvaient ça normal, hein, personne n'était, c'est pour ça que je suis à l'aise, quoi.
Et tu t'es investi aussi beaucoup dans la lutte du peuple palestinien.
Énormément, parce qu'en fait, je connaissais très mal. J'avais boycotté, évidemment, j'avais boycotté l'Afrique du Sud. Et j'ai commencé à boycotter Israël, c'est quand j'ai su que les oranges qui étaient estampillées Jaffa, en fait, c'était des oranges d'Afrique du Sud qui transitaient par Israël. Ça, c'était il y a très très longtemps, au moment de l'apartheid, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner, mais de manière... Parce qu'il y a maintenant, il commence à y avoir des infos, mais avant, il n'y avait pas vraiment des infos. Puis ensuite, il y a eu là vraiment où j'ai commencé à m'impliquer. J'ai lu beaucoup de choses, etc. Sur les lobbies sionistes aux États-Unis, parce que Larry, si tu veux, avait une très bonne connaissance de ça, parce que il y en a jusqu'au dans le gouvernement, dans tous les gouvernements états-uniens, parce qu'ils sont vraiment très actifs, et voilà. Et donc je me suis dit, mais il faut que je comprenne pourquoi, etc. Et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui a été pour moi vraiment essentiel, c'est Maurice Rachfuss. Et donc on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Et sur la, justement, parce que lui, ses parents ont été envoyés au four, il a fait des bouquins absolument extraordinaires. C'est en même temps journaliste, en même temps historique, il a une analyse qui est extraordinaire.
Maurice et Julie, c'est ça, il faut pour les gens qui ne connaissent pas.
Hein. Oui, Maurice a été, pour le dire très rapidement, il était adolescent. Et donc en 1942, au moment des rafles, etc., il y a un de ses voisins qui était flic, et qui est arrivé à 6 heures du matin, et qui a embarqué, dont lui, sa sœur et ses parents. Il faut lire ces bouquins, c'est absolument magnifique. Et donc Maurice, au niveau de la Palestine, il avait déjà fait, lui, 3 livres. Il a fait un livre sur 4 même. Il avait fait un livre qui était paru chez l'Harmattan, il a fait un livre qui s'appelle « L'ennemi intérieur ». C'est le premier livre, je crois, que j'ai eu, qui est fantastique, où il parle de Michel Warchowski. Il a fait un livre sur la Jordanie, sur les camps en Jordanie. Et il a fait un livre qui était le premier, qui est une sorte de premier voyage. Il a voyagé là-bas, etc. Pas sous son vrai nom, parce que Rachfuss, c'est le nom de sa maman. Et normalement, il s'appelle Plocky, le nom de son père. Et donc, il a fait des... Mais les livres sont... extraordinaire, des analyses extraordinaires. Et lui m'a dit, écoute Christiane, si tu veux voir ce que c'est, il faut que tu y ailles. Il n'y a pas 36 manières. C'est le seul qui m'est soutenu. Tout le monde disait, c'est de la folie, tu vas te faire attaquer. Il y avait le couvre-feu, c'était en 91. C'était juste après la première guerre du Golfe. Et les gens, parce qu'ils avaient fait un truc où il y avait des gens, tu sais, qui allaient soi-disant sur les terrasses, et quand il y avait les scutes, ils tombaient, ils disaient « youpi », etc. Et puis, et donc j'ai dit, bah, écoute, on y va. Et donc je me suis levée un matin, je dis à l'arrêt, non mais attends, tu vas me prendre encore pour une cinglée, mais là, il faut qu'on y aille, quoi, c'est pas... Ils m'ont dit, mais oui, ça m'intéresse, pas de problème. Et on est parti. Et Maurice m'avait donné plusieurs, dont Michel Warchowski, donc avec, si tu veux, Alternative Information Center. Et je suis allée là, et j'ai, ma première interview que j'ai faite, c'était avec Michel, avec Mikado, comme on l'appelle là-bas. Moi, c'est des gens vraiment que j'admirais et qui m'ont appris énormément, énormément de choses. André Bernard, parce que je disais, quand je parlais, je connaissais mal encore l'histoire, si tu veux, de l'Espagne, même si j'y avais vécu. Je connaissais pas et je faisais un peu le mix, tu sais, comme beaucoup de gens, entre la guerre civile et puis la révolution. Et puis, les républicains. Et André Bernard, il me dit, tu sais, là... Oui, d'accord, républicains. Mais là, c'est des anarchistes. Oui, hein, oui. C'est pas des républicains. Oui. C'est s'il y a pas, tu vois, il faut faire la différence. Il me dit parce que bon, sinon il y a le POUM, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit oui. Donc si tu veux, c'est vrai que j'ai, bon, évidemment, j'étais proche des anarchistes et du POUM, ça oui, parce que c'est des les écrits qui ont été faits. Puis j'étais fascinée par la révolution, quoi. Disons ce qui s'est passé entre juillet 36 et mai 37. Mais c'est phénoménal, les mecs qui brûlent le pognon, qui se mettent ensemble, etc. Et là, si tu veux, tout ça, en fait, c'est un petit cheminement, tu vois. Puis j'avais la chance de vivre avec quelqu'un, et lui aurait pu dire la même chose, si tu veux, où on partageait avec des, disons, des cultures différentes. Et puis, des cultures différentes, et puis des formations différentes. Donc ça faisait un espèce de mélange et on s'apprenait mutuellement. Et puis j'ai appris énormément du milieu libertaire, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées. J'ai appris aussi beaucoup avec Nelly Trumel, qui faisait Femmes Libres depuis 1986. Et c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé aussi à faire de la radio, parce que Nelly ne faisait pas vraiment de conducteur, elle avait 2-3 notes comme ça. Elle, c'était extrêmement spontané, c'était très agréable et elle avait, elle, le don de laisser parler les personnes et de les faire parler et de les mettre à l'aise. Moi, j'ai appris beaucoup avec elle. Franchement, c'était une fille formidable et complètement nature, spontanée, etc.
Et pour terminer, Christiane, comment tu vois l'avenir,
de la radio,
du format émission radio, à une époque où les jeunes sont de plus en plus sur leur téléphone portable, utilisent le podcast, etc. On dit qu'ils écoutent des choses courtes. Toi, tu fais des émissions de 2 heures, voire de 4 heures. Est-ce que tu vas changer parce que la demande est...
Je vais rien changer du tout.
Changes, voilà.
Parce que l'histoire de l'offre et la demande, là, c'est de la connerie. Franchement, tu sais, j'ai travaillé dans la publicité, je sais ce que c'est. Quand on me disait... Non, mais c'est parce que c'est le public qui veut ça. J'ai dit, mais vous l'avez trouvé ça où, quoi? C'est l'histoire de l'œuf et la poule, quoi. J'ai dit, si vous leur donnez quelque chose qui soit vraiment intéressant, où il y ait une réflexion, etc. Mais là, ils vont, peut-être au début, ils vont un peu renacler, puis après, ils sont, voilà. Moi, j'ai des jeunes qui écoutent les émissions. Alors, comme tu dis, bon, le podcast aide beaucoup parce qu'ils ne vont pas rester plantés à 13h30 jusqu'à 15h30 parce qu'ils ont autre chose à foutre ou je ne sais pas quoi. Mais ils le podcastent et puis ils vont l'écouter à un autre moment quand ils sont en voiture ou je ne sais pas quoi. Beaucoup de gens écoutent en voiture.
Après 30 ans d'émission, j'imagine, Christiane, que maintenant les gens te sollicitent. Est-ce que je peux passer dans ton émission? Est-ce que tu peux parler de mon livre, de mon film?
Oui.
Tu tries?
Je fonctionne au coup de cœur. Au coup de cœur et à l'intérêt que peut avoir le... Sinon, je peux en parler, si tu veux. Puis aussi, si la personne est disponible, hein, c'est pas toujours le cas, tu vois. N'importe comment, les attachés de presse dans les maisons d'édition, plutôt alternatives, ils savent à peu près ce qui va me brancher. Parce que quand je connais... Non, il m'est arrivé de traiter de sujets que je connais absolument pas. mais vraiment, je connais rien de rien. Bon, ben là, il faut que je me documente, que je lise, que je vois, etc. Et puis, donc, je me mets un peu à la place de l'auditeur ou de l'auditrice lambda qui va dire, mais c'est quoi ce truc-là, tu vois ? Là, tu m'as repris à plusieurs reprises en me disant, mais là, il s'agit de Radio Libertaire, ou là, c'est ceci ou cela. Donc, on va pas faire de trucs d'experts. Non, c'est pas ça qui est intéressant. Puis c'est pas moi qui fais l'émission, c'est ceux qui sont invités ou celles, parce que c'est elles qui vont apporter la matière ou la réflexion. Moi, je peux éventuellement relancer si tu veux, ou titiller ou un peu taquiner si tu veux, comme l'émission que j'ai, enfin, l'interview que j'ai faite avec Claire Ozias sur son bouquin Fait d'été, qui est une... C'est un bouquin splendide, magnifique, extraordinaire, très émouvant, touchant, qu'elle a autoproduit. En fait, elle a fait un truc formidable. Vraiment, elle a fait déjà de très bons livres. Hein. Tous ces bouquins sur les Roms, c'est une splendeur. Mais là, vraiment, c'est un truc extrêmement intime, extrêmement intéressant. Et pour la première fois, on parle de ces mouvements après 68. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, toutes les dérives qu'il y a eu, le pourquoi, le choc, comment ont vécu ces gens, qui certains ont vécu de manière absolument dramatique. Elle a fait un truc en même temps très personnel et en même temps extrêmement analytique par rapport justement à cet après 68. Et ça, bon, ben là, si tu veux, Claire, quand elle a vu ça, c'est Jackie Reuss qui m'a dit, tu devrais lire, prends contact, elle a fait un livre formidable, je ne savais pas, c'était elle qui a fait tout, hein. Et j'ai dit, ben oui, bien sûr, Claire, attends, ne serait-ce pas curiosité, mais je ne m'attendais pas à ce choc. Hein. Et puis, il y a, bon, quelquefois, je ne peux pas recevoir tout le monde. Par exemple, un garçon, d'ailleurs, que tu connais, que moi j'aime beaucoup, Fred Maurice. Le problème, c'est qu'il est loin. Mais il faut dire qu'une fois, je ne sais plus sur quel bouquin, mais ça, il pourrait te le dire, c'est, il est venu faire l'émission à Paris, il est venu en vélo de Bordeaux, là, de la région, là. En vélo, je le croyais pas. Eh ben si, il est venu en vélo. Alors écoute, moi je trouve que si j'arrive à faire venir quelqu'un en vélo à Paris, quelqu'un a envie de parler dans le poste et qui va faire dire ce qu'il a envie de dire, moi c'est cadeau ça quoi.
Radio Libertaire, les chroniques rebelles.
Avec Christiane Passevant.
Sur Dissonance. Ton émission révèle des gens, ton émission révèle des luttes, des mouvements sociaux. Elle éveille les consciences aussi.
Mais ça, c'est pas moi qui pourrais le dire. Je veux dire, j'essaye de faire mon mieux. Je me dis toujours, si au moins il y a une personne qui a une petite idée quelque part, qui dit simplement, mais il dit que des bêtises, celle-là, c'est bien.
30 années d'émission. Ouais. Ça fait combien d'heures d'enregistrement, d'interview, de rencontres, de préparation? Mais qui peut faire ça maintenant de nos jours, Christiane?
Ah si, il y en a qui le font. Attends, comment il y a plusieurs émissions qui font vraiment un travail exceptionnel. Hein.
Depuis 30 ans?
Oh ben, par exemple, Femme Libre, mais malheureusement Nelly est décédée, mais ça a été repris par Hélène, et puis il y a une autre émission féministe aussi, Remue Méninges, ça s'appelle. Mon problème à moi, c'est que c'est une hebdomadaire, que je suis quand même un peu exigeante avec les moyens qu'on a, et que je trouve que c'est une émission, c'est une radio associative, et il faut d'autant plus la respecter et faire quelque chose de bien. Parce qu'on me dit, oh, t'exagères, t'es perfectionniste, etc. Mais j'ai dit, mais oui, d'autant plus. Oui, je veux pas que ça soit qu'il y ait des blancs. Oui, je veux pas qu'il y ait des trucs, des machins, n'importe où. Oui, oui. Non, je veux qu'il y ait quelque chose de correct. Il faut d'autant plus. Il n'y a pas d'audimat à Radio Libertaire et on n'en veut pas. Mais je veux dire qu'on me dit, il n'y a pas un audimat. Je dis, ben non, je m'en fous qu'on ait. Mais ce qu'il y a au moins, qu'on le fasse le mieux possible avec nos petits moyens. On n'a pas des moyens énormes. Mais il y a des gens vraiment qui respectent cette radio. Et puis quand tu vois ce que cette radio représente, tu te rends compte, l'outil radio, mais c'est phénoménal. Peu importe le nombre de personnes, si c'est 3 à Pékin ou si c'est 3 millions, je m'en fous. Pourquoi ? Il faut faire bien. Il faut le faire le mieux possible. Il faut respecter les gens qui sont de l'autre côté du poste.
Merci Christiane. Et longue vie à Chronique Rebelle.
On verra.
Eh bien, écoutez, très très bonne semaine et surtout, évidemment, tenez bon.
Salut
et fraternité.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.